Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vous étouffez en suivant les médias, c'est normal, vous n'avez pas le Covid-19, vous êtes même en bonne santé, vous voyez, vous entendez correctement, la pandémie a écrasé toutes les actualités sur son passage. Dans un numéro du journal La Croix de ces dernières semaines, Guillaume Goubert, son directeur de la rédaction, avouait même que ses journalistes se plaignaient d'avoir l'impression de travailler pour une chaîne d'information en continu, il faut dire, difficile de parler d'autre chose quand tout s'est arrêté et que tous se réveillent lentement et groggy. Le grand débat, c'est le thème de l'émission Vivante Église. En ce vendredi matin, on reprend nos bonnes habitudes depuis que l'on a repris les directs le 11 mai dernier. Pour nous accompagner aujourd'hui, Bernard Ibal, président des Semaines Sociales de Toulouse et président du conseil scientifique de l'IHEMR, l'Institut des Hautes Études du Monde Religieux, et Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre religieux de la Communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Mon petit doigt m'a dit que vous n'avez pas vécu un confinement traumatisé et on s'en réjouit pour vous. Ma première question sera tout simplement sur ce sujet de la monomanie des médias à parler du Covid-19. J'essaye, moi, de défendre les médias en expliquant que quand il n'y a plus de vie sociale, c'est difficile de parler d'autre chose. Quel est votre point de vue sur le sujet, Bernard Ibal? Journalistes sont-ils coupables d'obsession?
Non, moi je crois pas, non. On peut intellectuellement critiquer, et c'est critiquable, cette attitude de monopole. Il n'y a que ça, quoi. Le Covid, il n'y a pas autre chose. Mais en même temps, ça se comprend, parce que la préoccupation quand même principale des auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs, c'est quand même bien la pandémie, hein. C'est quand même bien ça. Ils attendent qu'on leur parle de ça, quand même. Même si à la fin, ils disent, oh, il y en a marre, on ne parle que de ça, tout le monde est quand même très attentif à... Moi, je suis en pleine campagne, et je vois le contraste quand j'arrive en ville, ici. J'exagère pas en disant que j'ai un peu peur. Je sais pas trop pourquoi j'ai peur, mais j'ai un peu peur. Alors que dans ma campagne, j'ai pas peur. Mais là, j'arrive à Toulouse, j'ai peur.
Pourtant, vous avez des infos aussi là-bas. Tanguy-Marie Pouliquen, est-ce que les journalistes en ont fait trop? Ça introduit un peu l'angle de cette première partie où on va essayer de démêler quelques fils. On a pu avoir l'impression aussi qu'il y avait une forme de tous pourris ou de complotisme ou de sentiment de vivre dans un état trop autoritaire. Alors les journalistes sont un peu dans le sac, eux aussi, ils n'auraient pas fait ce qu'il faut.
Alors, moi, je pense qu'après l'incertitude maximale de la nature même du virus et de ses impacts hein, sanitaires, on a marché à l'aveugle, on ne connaissait pas la bête, on ne savait pas du tout comment contrecarrer. Les mesures fortes de confinement strict ont été prises, elles ont amplifié le phénomène d'angoisse, de peur, en tout cas de centralité permanente de l'événement. Je dirais aujourd'hui, ça serait coupable de ne parler que de ça. Au début, d'accord, on accompagne l'information, mais aujourd'hui, il faut élargir, il faut aller de l'avant. Voilà.
Alors, on va essayer
vraiment. Hein.
On va commencer à se déconfiner, puisqu'on a quand même choisi, étant donné que cette émission, en général, part de l'actualité du mois dernier, on aura deux grandes parties sur le coronavirus, mais on essaiera de tirer des fils qui nous donnent de l'air. Et puis, dans la dernière partie, on parlera de la situation à Hong Kong et à Taïwan. Alors, pour cette ambiance, soi-disant, de dérive autoritaire, puisque c'est comme ça que j'introduirai cette première partie, dont les pouvoirs publics seraient coupables en ce moment. Il y a eu plusieurs annonces, plusieurs événements. J'aimerais commencer par celui-là, le fameux fichier pour les malades du coronavirus. On a laissé entendre à un moment que toute la population française, les médecins allaient avoir accès au dossier médical de toute la population française. Ce n'est pas tout à fait le cas, l'a expliqué le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce sera juste les personnes, on va dire, qui ont été touchées. Qu'est-ce que Bernard Ibal sur ce sujet du fichier, du fichage des Français, est-ce que ça vous a fait bondir ou pas? Est-ce
non,
que ça vous a inquiété un moment?
Non, surtout que tout ce qui a été annoncé comme fichier concernant la santé en France a toujours abouti à rien du tout, quoi, hein. Il y a longtemps qu'on nous parle qu'on est chacun un livret de santé. On nous a même délivré, j'en ai un chez moi dans un tiroir de livret de santé, il n'y a rien écrit dessus. Non. Mais en revanche, ce qui m'a fait peur, moi, et ce qui me fait peur, parce que c'est l'actualité d'aujourd'hui, là, de vendredi, c'est le stop Covid, quoi. Hein, c'est-à-dire cette invention numérique, liée directement quand même à Apple et aux GAFA, quoi. Hein, mais officiellement liée à ça. Et qui consisterait à revenir un peu au Moyen-Âge où on avait les crécelles des lépreux pour annoncer qu'il fallait passer au large.
Mais Bernard Ribas, je croyais que cette application avait été repoussée par le gouvernement.
Pour l'instant, elle n'est pas du tout repoussée. Le secrétaire d'État au numérique, il est facile de retenir son nom, c'est M. O, hein, avec une lettre. Le secrétaire d'État, lui, il a dit que... Il n'était pas question d'abandonner, il compte bien aller jusqu'au bout. Alors maintenant, il y a un Premier ministre, il y a un Président de la République, hein, mais pour l'instant... et là, je suis inquiet, là. Là, je suis inquiet parce que là, ça va trop loin, quoi. Hein, là, le fichage, c'est une chose. L'affichage, c'est encore pire que le fichage, quoi. Hein.
Tant qu'il y a Marie Pouliquen sur cette question, les Français sont en tout cas majoritairement contre toutes ces applications. On a vu sur qu'il y a eu des sondages.
Alors moi, je pense qu'au cœur de cette crise, il y a quand même un apprentissage progressif des Français à sortir de leur individualisme quasi narcissique et colérique à l'égard de l'autorité publique. Ça veut dire que il y a quand même une responsabilité sociétale. Si certaines données individuelles, elles pourraient être pas nominatives, mais elles pourraient être rassemblées pour aider à la science, à la recherche, à avancer, il nous faut des données. Il nous faut des données en termes de définir où sont les clusters. Il faut bien, pour circonscrire les décisions politiques de déplacement, notamment, et il faut aider la science à aller de l'avant. Donc, d'une certaine part, mes données m'appartiennent, mais d'autre part, en tant que citoyen, j'appartiens à une société. Donc il faut trouver ce juste milieu pour qu'il n'y ait pas de mutualisation des fichiers, hein, comme c'est le cas pour, par exemple, pour les images. Les caméras dans les villes n'ont pas le droit d'être reliées les unes aux autres entre villes. Il n'y a pas de fichier central. Donc on pourrait arriver à une solution intermédiaire, d'ailleurs ouverte par la CNIL. La CNIL interdit la mutualisation et la centralisation des fichiers. Il pourrait y avoir une sectorisation de l'arrière-col de ces données pour aider la science et à trouver des solutions pratiques, aider les politiques à prendre des mesures, non pas simplement de décision, mais de choix réellement politiques.
Alors parmi les suspicions ou les inquiétudes qui ont vu le jour à l'occasion de cette pandémie et de ce confinement, évidemment, comment ne pas parler de cette histoire de la chloroquine et du professeur Didier Raoult. Alors on pourrait faire probablement une série d'émissions sur le sujet, parce qu'il doit être bien complexe pour avoir fait couler beaucoup d'encre comme cela. Une des dernières nouvelles, c'est donc cette étude du Lancet, où sur la base de 96 000 dossiers médicaux, a été conclu que la chloroquine était inefficace face au Covid-19. Alors le professeur Didier Raoult a parlé d'une étude foireuse. Il a publié entre autres, donc ça c'était dans les médias, il a publié aussi donc une vidéo sur le site YouTube de l'IHU de Marseille, dont il est le directeur. Je voudrais juste vous citer un passage pour introduire un peu ma question. Il dit la chose suivante: dérive, aujourd'hui il y a une dérive dans les revues médicales pareille à celle des médias généralistes, dans laquelle la réalité, le vrai monde, la réalité tangible que l'on peut voir, est tordue d'une telle manière qu'à la fin ce qui est reporté n'a plus rien à voir avec la réalité observable. J'ai pris le temps de le noter. Donc il généralise son propos, Didier Raoult, et il a été une figure du coup de cette dérive autoritaire soi-disant du pouvoir, voire de cette ambiance un peu parfois complotiste. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard Ribal?
Oui, dans cette affaire là de ce médicament qui est utilisé depuis très très longtemps dans certaines maladies dites exotiques, hein. Je crois qu'on est exactement dans le cas que vous souleviez, père de Boulingen, c'est à savoir qu'on est toujours dans l'incertitude. Vous avez les experts qui vous disent si c'est efficace, et moi je suis pas expert, hein, mais il y en a un au moins, c'est le professeur Raoult de Marseille, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, et des médecins généralistes qui veulent l'utiliser. Et puis il y a d'autres spécialistes tout aussi honorables, hein, qui disent non, 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 ça vaut rien, ça n'a pas d'efficacité. Mon point de vue, c'est que, et là, je ne vais pas éclaircir, hein, c'est que les deux ont raison. Le professeur Raoult a raison en disant, écoutez, on utilise ça depuis des décennies, on n'a jamais à parler de mortalité, il était même délivré sans ordonnance. Et donc, arrêtons de nous parler de mortalité, je crois qu'il n'a pas tort là. Mais en même temps, il y a des expériences faites sur des milliers de personnes et qui donnent des résultats pas très satisfaisants. Hein. Donc, on est, c'est pas un cas particulier, hein. C'est la caractéristique de cette pandémie. On ne sait rien. Et nos gouvernants sont obligés de marcher à vue, quoi, hein, et de se contredire parfois, mais dans tous les pays. Parce que les choses évoluent, parce qu'on s'aperçoit que c'était pas bon, parce que le renseignement était faux.
Parce qu'on découvre la manière dont ça se transmet, etc.
Voilà. Il faut quand même qu'on ait bien en tête qu'il n'y a ni thérapie, ni vaccin, quoi. Il n'y a rien du tout. Même pas de test. Parce que les tests, il y a plusieurs sortes de tests. Mais les tests les plus valables mettent quand même 3 à 5 jours quoi, hein, pour donner un résultat. Ce qui fait que dans les stops dont je parlais tout à l'heure, là, les stops Covid, là, dans les iPhones où on mettrait des renseignements et où quand on se croiserait, on aurait une sonnette d'alarme là, qui nous dirait « Attention, vous êtes en train de croiser quelqu'un qui est infecté », il faut partir des tests. Or, les tests ont toujours un effet retard, quoi.
Tanguy-Marie Pouliquen, je repense à un des principes de gouvernement du pape François, la réalité est supérieure à l'idée. Est-ce que là, c'est ce que dénonce aussi le professeur Raoult ?
Alors, la réalité, c'est... Il y a deux types de réalité. Oui. Hein. Il y a la réalité hyper-scientifique, portée par une hyper-rationalisation, où tous les protocoles ont été respectés, ce qui reporte au calendrier grec un résultat sur au moins de 1 an et demi. Et puis il y a la réalité au sens de relecture de bonnes pratiques, ce qu'on fait dans les pays en voie de développement. La chloroquine, elle est vraiment développée, par exemple en Afrique, au Maroc, au Sénégal. Moi, j'étais au mois de février, j'étais à Madagascar. Donc, je me suis intéressé à savoir comment, à Madagascar, ils avancent. Alors, eux, ils utilisent aussi un antipaludéen, parce que la quinine est un antipaludéen, l'artésima, et ils font des tisanes. Pour l'instant, il n'y a pas de pandémie. Donc, dans des pays où on a déjà un bon sens, de sagesse médical populaire à travers des tisanes. Et bon, on sait que la Madagascar est spécialiste aussi en huile essentielle et autres. Il y a des résultats massifs.
C'est aussi le retour terrain français, puisqu'il y a eu de nombreux médecins généralistes.
Oui.
Ça fait partie aussi des rares voix dans l'opposition de la majorité gouvernementale. Mmh. Hein. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est une femme médecin qui est de la majorité présidentielle et qui n'a pas voté le prolongement de l'état d'urgence sanitaire pour cette raison. Disons, les médecins généralistes, eux, c'est comme ça qu'ils soignent, laissez-les travailler.
Oui, mais je reviens à mon idée de départ d'hyper-rationalisation. Et là, on est confronté, heureusement, à une évolution de la posture épistémologique de la connaissance par rapport à la réalité de terrain. Est-ce qu'il faut tout contrôler, tout connaître pour agir, pour décider ? Ou est-ce qu'il faut avancer avec cette incertitude en partant de la vie réelle des personnes. Donc ce qui donne une envie d'aller de l'avant, et on peut aller de l'avant avec confiance. Moi, j'aimerais déjà dire que il faut pas hyper valoriser d'un point de vue décision politique la crise sanitaire. Il faut passer aussi maintenant à une autre étape, parce que la crise sanitaire, ça engendre une crise politique. La crise politique, on va avoir moins 8% de PIB cette année. Moins 8% de PIB, ça provoque encore une crise sanitaire encore plus grande. Donc c'est la grande relecture, notamment de la crise de 29, et puis de la relecture de la crise sanitaire de 2003 aussi, ou de la grippe, la fameuse grippe, et puis l'été où il avait fait trop chaud, etc. C'est qu'à un moment, l'économique, s'il n'est pas pris en compte, suragit sur le problème sanitaire. Et maintenant, les variables sanitaires ne peuvent pas être les seules variables décisionnelles. Et même chose pour les journalistes.
Oui, la crise économique qui...
Rapidement, hein, parce qu'on va faire une pause, et puis on en a pas mal parlé hier.
La crise économique qui est effectivement le deuxième volet très important de la crise que nous traversons, est une crise économique conjoncturelle. Elle est essentiellement due à la pandémie. Alors qu'en 1929, c'était une crise structurelle. Moi, je comparerais davantage à 68, où il y a eu 8% aussi de PNB en moins, et où on s'est relevé de tout ça assez rapidement.
Allez, on fait une pause, on vous retrouve. On va essayer de parler aussi des bonnes nouvelles de ce temps de confinement.
Vivante Église, Emmanuel Péla.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, votre émission d'actualité. On revient sur le mois passé, sans surprise, on parle en partie du Covid-19 et de ce temps de confinement. Avec nous, Bernard Ibal, président des Semaines Sociales de Toulouse, président du conseil scientifique de l'Institut des Hautes Études du Monde Religieux, IHEMR, et Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre religieux de la Communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Je vous avais demandé donc de nous trouver des bonnes nouvelles. On a essayé de le faire à cette antenne, même pendant le confinement. Il y avait une émission spéciale dont j'avais la charge, c'était l'écho de Pâques, et où on avait un invité pendant 5 jours, tous les jours le même, et on essayait de voir ensemble avec ces invités donc quels étaient les bons, entre guillemets, les bons côtés de ce temps. Alors Tanguy-Marie Pouliquen, vous avez repris une idée qu'avait développée un de ses invités, mais vous avez certainement en parlé autrement, c'est de nous parler du temps. Le temps semblait s'étirer comme pendant les grandes vacances, mais on imagine que vous en avez tiré une réflexion peut-être plus subtile que cette simple remarque. Quelle est-elle ?
Alors le rapport au temps que j'aimerais développer, il est paradoxal. Si on veut rebondir sur l'interview notamment de Marcel Gaucher dans le journal du dimanche, le dimanche dernier, lui qui parle de...
Marcel Gaucher, il faut représenter en deux mots, un grand philosophe français.
Oui, un grand philosophe sociologue, quoi. Qui lui, parle pas mal du désenchantement du monde et autres. Il s'interrogeait de manière un peu critique du clivage qu'il a observé dans la société française entre ceux qui ont profité du confinement pour se reposer, pour se poser, et ceux qui ont été dans la période de confinement, finalement, happés par le travail et qui voulaient vraiment travailler. Il y en a qui ont pris leur parti de faire ce qu'ils voulaient. Et il pose un regard finalement très...
On n'avait pas toujours le choix aussi. Hein,
voilà. Mais globalement, ils disent c'est inquiétant ce clivage. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout inquiétant.
Le clivage, quel est-il ? Vous pouvez juste le
clivage entre ceux
qui sont obligés de travailler et ceux qui ne le sont pas
Entre ceux qui ont profité de ne pas travailler pour ne pas travailler du tout et ceux qui ont profité du télétravail pour travailler davantage parce que, par solidarité ou par obligation nécessaire. Alors, moi, j'aimerais dire que ce n'est pas forcément un clivage inquiétant. Ceux qui ont pu ne pas travailler, bien heureux soient-ils, ils retrouvent vraiment les vrais rythmes. On est dans une société qui va trop vite. Hein. Le temps est le messager de Dieu, dit Pierre Fabre, vous voyez. La hâte nous fait mimer les robots, disait déjà Lanza del Vasto. Xavier Pastier nous dit qu'il faut, dans cette vie normale, il faut finalement générer des contre-frottements pour ralentir ce rythme. Alors le fait de retrouver une vie lente, moi j'en ai bénéficié, hein. Déjà j'ai une vie beaucoup plus lente que les autres en vivant au monastère, à la communauté des Béatitudes, mais d'entrer dans ce Shabbat numérique, pour ceux qui l'ont vu, ça permet de retoucher, de respirer, et de vivre vraiment, non pas en survie, simplement avec le corps tendu vers une production extérieure, mais avec toute notre personne. La profondeur de l'homme se situe dans la puissance de l'accueil. Le fait d'avoir du temps nous permet de nous accueillir les uns les autres, de nous écouter, de générer de la tendresse. Même Voltaire disait en son temps que le monde avec lenteur marche avec sagesse. Et donc là, il y a une part de sagesse et une part, on pourrait dire, de...
Alors Tanguy-Marie Pélinquin, juste, je vous arrête parce qu'on entend que vous en avez aussi d'une certaine manière profité. Tout le monde parle du monde de demain. Et alors tout le monde aimerait arriver à trouver du temps et à ralentir. On peut avoir l'impression que ça fait partie des injonctions utopiques. Oui, demain, je prendrai plus le temps. Demain, je vais ralentir. Mais ça ne dépendrait pas que de moi aussi. Donc,
Alors, ce qui peut participer à une évolution de la société civile dans le cadre aussi économique, la place du télétravail, si on relie, elle est paradoxale. Elle permet de gérer son temps au moins quand je commence à travailler, ce qui n'est pas peu, c'est quand même important, que je peux travailler d'où je veux, c'est quand même formidable d'avoir cette liberté de choix du lieu de travail. Après, pour le rythme de travail, il reste imposé, et parfois même le télétravail, moi aussi en tant qu'enseignant, j'ai dû faire du télétravail, faire des visioconférences, ça prend plus de temps, et la technique ne suit pas forcément beaucoup.
En tout cas, les Français sont majoritairement pour. On a eu l'occasion d'en parler à cette antenne. Je crois que plus de 70% des gens qui ont fait l'expérience du télétravail et qui ne l'avaient pas fait, s'y sont dit, enfin, aimeraient poursuivre cette expérience. Vous pourrez éventuellement prolonger votre réflexion, Tanguy-Marie Pélinquin. Vous, Bernard Ribal, vous vouliez nous parler de la vulnérabilité que l'on a découvert. Mais alors, vous avez un angle, c'est la vulnérabilité universelle. Alors, expliquez-nous ce que vous entendez par cette vulnérabilité universelle.
Oui, je crois que l'un des grands maux qui frappe notre société et que le confinement a aidé à déchirer un peu, c'est le fait qu'on nous propose un modèle, un paradigme, enfin modèle, un modèle d'être humain qui est celui de l'homme fort, battant et équilibré. Et ça, c'est diffusé par les médias, c'est diffusé par le sport, c'est diffusé par la classe politique. Un homme politique qui ne monte pas les escaliers deux par deux, ça ne va pas du tout, quoi. Hein, bref, tout ce qui parle, tout ce qui s'exprime dans le sens de vivre l'homme fort, battant, équilibré. Et évidemment, ça met dans l'exclusion ceux qui sont dans la faiblesse, l'handicap, la dépression.
Alors, ça date pas d'hier, parce que j'ai retrouvé un article qui est, je crois, de vous. C'était une tribune dans le journal La Croix. Où vous laissiez entendre que Peggy, donc Clio, parlait déjà des dieux grecs qui sont malheureusement trop parfaits, c'est ça?
Je vois que vous avez de très bonnes lectures.
Oui, vous voyez.
Oui,
je trouve intéressant de
Charles Peggy, dans un livre qui s'appelle Clio, hein, c'est pas la voiture, hein. C'est le livre qui s'appelle Clio. Dans ce livre, il y a quelque chose de vraiment génial. Il dit, les dieux grecs sont très malheureux. Et vous savez pourquoi ils sont malheureux, les dieux grecs? Parce qu'ils sont immortels. Et ça surprend, parce que le commun des mortels se dit, mais justement, si j'étais immortel, qu'est-ce que je serais content, quoi. Non, les dieux grecs sont malheureux parce qu'ils sont immortels. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas risquer. Évidemment, ils sont immortels, ils ne peuvent pas risquer. Et s'ils ne peuvent pas risquer, ils ne peuvent pas aimer. Parce que aimer, c'est se donner. Aimer, c'est aller jusqu'au bout de l'expression de soi, à l'adresse et à l'appel de l'autre. Alors, donc la vulnérabilité, c'est un élément essentiel. Il y a même des textes de la liturgie, à cet égard, on ne va pas entrer dans les détails, mais qui sont étonnants dans la liturgie pascale, où on dit que vive en quelque sorte le péché originel, quoi, hein. Il y a une des, comment on appelle ça, des prophéties. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle prophétie, mais il y a une dizaine de prophéties dans la célébration du samedi saint. Et dans une de ces prophéties, il est dit que heureuse était la faute qui nous a entraînés vers cette rédemption.
Quel lien vous faites avec la vulnérabilité
ça veut dire que la
vulnérabilité... Faites un lien aussi entre vulnérabilité et fraternité.
La vulnérabilité n'est pas nécessairement qu'une catastrophe. C'est une catastrophe, mais ce n'est pas qu'une catastrophe. C'est un peu comme aussi la pauvreté, hein. Un chrétien sait qu'il faut se battre contre la pauvreté. Syndicalement, moi, je me bats contre la pauvreté. Mais en même temps, la pauvreté, mais dans un autre sens. Est une vertu spirituelle, éthique, en tout cas spirituelle. Et là aussi, il y a cette ambiguïté dans la vulnérabilité, mais qui est au centre même du christianisme. Hein. Ce qui fait l'originalité du christianisme par rapport à d'autres religions, y compris monothéistes, c'est que il y a une tragédie qui se passe, quoi. Et cette tragédie, elle est dans l'ordre de la vulnérabilité, qui est la condition de l'amour.
Alors justement, expliquez le lien que vous faites entre vulnérabilité et fraternité. Vous en aviez déjà parlé à cette antenne, vous en parlez dans cette tribune du journal La Croix.
Oui, le lien, c'est le lien que je fais entre vulnérabilité et amour. Fraternité étant du champ sémantique de l'amour. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas cette possibilité de souffrir et de mourir, il n'y aurait pas la possibilité d'aimer. C'est-à-dire, il n'y aurait pas la possibilité de pouvoir se sacrifier pour l'autre, de pouvoir s'abandonner, de pouvoir répondre à l'appel de détresse d'autrui. Et justement, l'épidémie là a permis de mettre en cause, détruire momentanément, mais de détruire ce paradigme de l'homme fort, battant et équilibré, et de prendre conscience que la profondeur de l'homme, elle n'est peut-être pas là. Que l'homme mérite, même quand il est dans une situation grabataire, mérite d'être sauvé, même sauvé médicalement, pas simplement sauvé spirituellement. Et là, il y a une grande prise de conscience qui m'intéresse beaucoup.
Allez, je vais vous laisser vous répondre sur les deux sujets du temps et de la vulnérabilité. Je cite aussi une phrase que vous donniez dans cette tribune, parce que je la trouve belle. Il n'y a de cette fraternité active pas... Pardon, Tanguy Marie-Poulik, hein, sur cette réaction, et je vais retrouver ma citation.
Alors moi, je voudrais rebondir sur l'analyse pleine de flegme d'un sociologue anglais dans une tribune de La Croix de ces derniers jours, où il compare l'estime qu'ont les citoyens français de leur gouvernement. Alors, 35% des Français soutiennent la politique gouvernementale par rapport au coronavirus, hein, très bien. Alors que les Anglais, qui quand même ont mal commencé la lutte contre le coronavirus, ils ont 65% d'estime de leur gouvernement.
Et on est parmi les plus bas au monde, en l'occurrence.
Alors, donc ça veut dire que moi j'aimerais, parce qu'on peut déplacer après ce regard sur ceux qui nous gouvernent, finalement, au regard que les Français ont d'eux-mêmes, parce que les Français sont des gens les plus pessimistes d'Europe.
Ah, oui, oui.
Ils sont les gens les plus pessimistes d'Europe, et je trouve que cette crise a aidé et aide progressivement à sortir de ce solipsisme, ce retour sur soi autoréflexif des Français. Et progressivement, ils ont vu qu'ils avancent avec d'autres. Ils sont ouverts à la solidarité, ils se sont soumis assez facilement, peut-être par peur, aux autorités politiques et aux mesures de confinement. Donc au cœur de cette crise, il y a, on pourrait dire, un travail de la posture des Français dans l'espace public. Et j'espère que tous les gestes de solidarité, de proximité, d'intention, de voisinage...
Quel lien vous faites avec le sondage que vous citez? Parce qu'on peut se dire au contraire qu'ils vont se réveiller encore plus râleurs et encore plus...
Oui, alors,
revendicateur qu'avant, au regard oui, de, alors, de
le sociologue dit, en regardant les Français, oh, non, surtout ne changez pas, on aime bien vous voir manifester, nous on ne manifeste pas chez nous, presque pas, on aime bien vous voir râler en permanence, vous avez toujours des bonnes idées, mais quand même, ayez un peu plus de flegme, c'est-à-dire d'art de vivre ensemble et de regarder les bons côtés de la vie et de ne pas vouloir tout contrôler.
Il y a le côté râleur français.
Bernard Ibal, Astérix va-t-il prendre le thé
qui est dans la culture française, mais on voit bien, du temps de De Gaulle ou du temps de Mitterrand, on voit bien qu'il y avait apparemment une large majorité opposée à l'un et à l'autre. Et quand il y avait une élection, c'était quand même l'un et l'autre qui étaient élus, quoi. Je crois qu'il y a le côté superficiel du français qui râle, mais après, quand il faut sérieusement poser les problèmes, il y a un retour, il y a un certain retour. De même qu'on a été les plus jacobins, et ça nous a servi, hein, d'être jacobins. Angela Merkel, elle s'en sort pas, là, de ses Länder en Allemagne. Parce que chaque ministre de la Santé de chaque Länder prend ses décisions et ça lui, évidemment, ça peut pas convenir au pouvoir central. Et la chance de la France, c'est qu'elle a le réflexe jacobin. Là. Et en même temps girondin, parce que la concertation n'a pas cessé et pour une fois, les maires et les conseils généraux départementaux ont été dûment consultés. Là, c'est le côté girondin. Les deux ont joué, je trouve que finalement, ce mélange est pas si mal. Et j'aime bien que mon voisin râle un peu à côté, ce que je râle avec lui. Mais quand on rentre chacun dans notre porte, on se dit, oh, finalement.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. On va parler de Taïwan et d'Hong Kong.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, votre émission d'actualité de Vivante Église, c'est pour rappel le thème de l'émission ce vendredi matin avec nous Bernard Ibal, président des Semaines Sociales de Toulouse, et Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre et religieux de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bernard Ibal, il y a une bonne nouvelle aussi que vous aviez sélectionnée au début, ça m'a surpris. Vous allez nous dire pourquoi. Ce sont les 700 000 tests annoncés par semaine. Qui sont sujets à discussion, on serait, semble-t-il, loin du compte, pour le peu que j'ai lu à ce sujet. Et puis les fameuses brigades sanitaires qui ont fait hurler certains, en tout cas à cause du choix du terme. Pourquoi est-ce que ce sont des bonnes nouvelles, Bernard Ribal?
Bah, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ce qu'on a reproché, peut-être à juste titre, à nos gouvernants et un peu dans tous les pays, c'est qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient. Alors, on les comprend, on a parlé au début de cette émission de l'inconnu, de la difficulté de s'adapter à quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais là, il y a une stratégie qui m'a intéressé, et il y a une trilogie bien construite.
Quoi la trilogie? Parce que là, j'en ai deux.
Alors, la trilogie, c'est en un, on fait des tests. Alors, le problème, vous avez raison, il faudrait qu'on les ait, les 700 000 tests par semaine. Mais si on les a, ces 700 000 tests par semaine, on peut faire des tests. Les tests détectent des clusters, et les tests vont contrôler tous ceux, du moins presque tous ceux qui ont été contaminés. Et les contaminés sont mis en quarantaine dans des hôtels prévus à cet effet. Il y a là une construction stratégique intéressante qui montre que on ne navigue pas à vue. Là, il y a une réflexion. Il y a une réflexion et une mise en œuvre compliquée, très très compliquée, mais qui a l'air de fonctionner. Ces brigades du Covid-19, c'est-à-dire ces détecteurs de clusters et ces gens qui viennent, qui se déplacent, les soignants qui se déplacent pour faire les tests, à l'endroit où il y a une infection signalée, je crois qu'il y a effectivement un progrès significatif. Alors, autorité de l'État, oui, bien sûr, c'est l'État qui l'a décidé, mais en même temps, s'il y a une déviance, s'il y a une dérive de l'autorité politique, elle est une dérive dans le sens du laxisme à l'étranger. Le Brésil a un gouvernement très, très autoritaire, disons que c'est une dictature, et ils n'arrêtent pas de dire que ça n'existe pas, la pandémie n'existe pas. Et on pourrait avoir des exemples du même genre en Chine au tout début, où on a mis en prison le médecin qui signalait la pandémie. Je ne pense pas qu'il y ait cette dérive autoritaire. Il y a un mélange jacobin-girondin, mais il n'y a pas de dérive autoritaire, du moins en France.
En tout cas, dans un article d'actu.fr, qui est donc un média local, il était dit, c'était un article en date du 24 mai, que donc il y a eu plus de 16 000 tests qui ont été faits, 2% se sont révélés positifs, il y a 250 conseillers qui font partie de ces brigades qui sont mobilisés dans chaque département pour tracer les personnes qui ont été en contact avec une personne contaminée, des cellules d'investigation avec des médecins, des infirmiers, des conseillers, etc. Et puis après, donc, il vous est proposé soit de rester chez vous, soit d'aller dans des appartements dédiés.
Oui, oui, les chambres des hôtels qui sont réquisitionnés pour ça. Oui.
Allez, dernier sujet qui n'est pas sans lien. Ils ne sont pas sans lien malgré tout avec l'actualité dont on a parlé jusque-là. C'est donc Hong Kong et Taïwan. Ça peut paraître loin, mais en fait, à chaque fois, ça parle de la Chine. Doit être votée au Parlement chinois une loi, on va dire, sécuritaire à l'égard d'Hong Kong, visant à interdire la trahison, la sécession, la sédition et la subversion. Hong Kong a été le lieu donc de manifestations géantes en 2019. Je pense que tous ont entendu parler, ou presque. Il y a eu à nouveau des manifestations dans les rues. C'était dimanche 24 mai dernier, pour s'ériger contre cette mainmise de la Chine à l'égard de Hong Kong. Tanguy-Marie Pouliquen, qu'est-ce que ça vous a inspiré?
Ça m'inquiète. Moi, je vais depuis 10 ans chaque année en Chine. On passe par Hong Kong. On dialogue avec les gens de terrain pour écouter. Ils veulent pas. Ils veulent pas d'une autorité politique. Le clivage, il se joue à un niveau très simple. Est-ce que les droits économiques et sociaux suffisent pour une prospérité d'un pays? Ben non. Les droits civils et politiques sont à la base de la revendication des Hongkongais qui puissent avoir un droit de suffrage pour nommer leur responsable politique, quitte à rester effectivement dans la Chine. Mais bien sûr, cela n'est pas reconnu. Alors,
il faut dire aussi quelle est la situation actuelle. C'est le fameux un pays, deux systèmes. Aujourd'hui, il y a à Hong Kong une liberté d'expression, une liberté de la presse, une justice.
Alors, la liberté de la presse, elle est partielle, quand même, puisque les grands magnats de la presse ont eu une pression ces dernières années énorme. La manière de faire de Pékin est toujours un peu la même. Hein. On enlève un ou deux magnats, il part 4-5 mois dans un hôtel, et puis on discute avec lui, avec les services de renseignement. Et puis il revient, il a signé un accord tacite politique avec le gouvernement, et puis sa ligne éditoriale est liée. Donc on peut dire qu'à Hong Kong, seulement 20% de la presse est réellement libre. Donc ça met en perspective. Ce mercredi dernier a été discuté au Lego, le Parlement hongkongais, une loi sur l'hymne national, puisque les Hongkongais sifflent l'hymne national, et il y a une volonté politique de sanctionner. Alors ça a créé des soubresauts de manifestations qui ont été largement contrôlés par le gouvernement. On est dans une situation bloquée. Pékin profite de l'interdiction faite par le gouvernement local de Madame Lam de manifestations de rassemblement de plus de 8 personnes pour passer en force. Donc c'est un acte où la Chine passe en force, c'est une loi commanditée. Ce n'est pas sans lien avec Taïwan non plus.
En tout cas, c'est bouleversant quand on lit certains témoignages. Hein, une certaine Cécile, 22 ans, qui était citée dans un article, je crois que c'est Le Figaro, « Manifester dans la rue, c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, ce ne sera plus possible. Peut-être que l'armée chinoise sera ici », dit-elle. Taïwan, ça n'est pas sans lien, puisqu'il y a eu donc, le discours d'investiture du second mandat de sa présidente, Tsai Ing-wen, si je prononce correctement, qui a appelé Pékin à coexister avec un Taïwan démocratique. Là aussi, Taïwan est dans une situation, un peu similaire à Hong Kong, non, au regard du droit.
Pas pour l'histoire. Pas pour l'histoire et pas pour le droit non plus.
Non, c'est pas un pays de système, mais enfin, il y a en tout cas...
Ben si, justement. Le pouvoir central a tort. Hein, le pouvoir central de Pékin propose aux deux, Hong Kong et Taïwan, ce slogan, c'est pas un modèle, hein, ce slogan de un pays, deux systèmes. Ça veut dire une seule Chine, mais il y aura peut-être une Chine communiste et une Chine qui serait non communiste. C'est ça qui est sous-entendu. Et Hong Kong le refuse, ça vient d'être dit, mais Taïwan aussi, quoi. Hein, la chef du gouvernement de Taïwan a été très claire et très prudente aussi. Hein, parce que l'histoire pèse lourd. Hein. Jusqu'à 2016, je crois, le gouvernement taïwanais était très pro-américain, hein, ne serait-ce que pour sa survie, mais en même temps, il faisait partie du Kuomintang, qui est l'ancienne réunion de commandement de la révolution chinoise, où, au début, même les communistes, même Mao, étaient en alliance avec les grands propriétaires terriens. Et ça formait le Kuomintang, tout ça. Et Chiang Kai-shek, le chef des nationalistes, qui a été...
Pour mettre les Japonais dehors, quoi,
oui,
à l'époque.
Oui, pour mettre les Japonais dehors. C'est difficile de refaire toute l'histoire, mais les nationalistes vaincus, alors qu'ils avaient au départ la plus puissante armée du secteur, Chiang Kai-shek, s'est réfugié à Formose, on l'appelait Formose à l'époque, ça devait s'appeler déjà Taïwan en langue asiatique, mais nous, on parlait de Formose. Et c'est grâce aux Américains que Formose est restée indépendante. Et aujourd'hui, on a un paradoxe inouï qui a été joué à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, où on avait une Chine ultra-puissante, mais qui a baissé des ailes, qui dit « c'est moi la Chine » et qui interdit à Taïwan de siéger à l'OMS, alors que c'est Taïwan qui a réussi...
Qui a été le pays modèle.
Hein. Qui a été le pays modèle. Un 7 morts sur 24 millions d'habitants. Et qui a annoncé la catastrophe de Wuhan, le premier cluster de l'histoire planétaire de cette pandémie, qui a signalé le 31 décembre, c'est facile à se souvenir, 31 décembre 2019. Alors que la Chine de Pékin niait l'existence de cette pandémie et mettait en prison, quelques mois après, le médecin qui donnait l'alerte. Et d'ailleurs, ce pauvre médecin est mort du Covid. Donc, on a là ce contraste très très fort avec peut-être un risque de guerre. Pour aller très vite, hein, sur une échelle de 5, je le mets à 3, ce risque de guerre. 5 étant l'imminence de la guerre. Mais pourquoi ? Ce qui va contre la guerre, c'est que la Chine n'a pas tellement intérêt à déclencher une guerre qui serait forcément, qui dépasserait le cadre de la mer de Chine. Mais en même temps, on a bien vu que les Russes se gênaient pas pour prendre la Crimée. Et alors qu'on disait, non, ils ne le feront pas, ils ne vont pas le faire, ça, ils l'ont fait. Et puis personne ne les a délogés. Et ils continuent avec le Donbass. Donc, c'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça.
En tout cas, la réaction de Pékin a été suite à cette...
Alors, ils sont entrés dans les eaux territoriales de Taïwan, la flotte chinoise.
Donc, la présidente donc, a appelé la Chine à coexister avec un Taïwan démocratique. Et la réponse a été que les autorités de Pékin ne toléreraient jamais ça. Nous avons une détermination sans faille, une confiance totale et toutes les capacités de défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Pas de sécession possible.
Oui, en même temps, le même jour, la 7e flotte américaine croisée entre la flotte chinoise et les côtes de Taïwan. Quoi, hein. Ce qui signifie clairement le risque d'un conflit, parce que des fois les conflits ne sont pas déclenchés par les gouvernants. Hein. Les conflits, c'est quand il y a un navire qui trouve qu'il y en a un autre qui se rapproche trop et qui se met à tirer. L'autre réplique, et là, il n'y a plus personne qui peut arrêter. Là. Donc c'est très dangereux, là, ces flottes qui se frôlent les unes contre les autres, surtout que ce n'est pas des barques, hein, c'est des porte-avions qui se frôlent. Donc il y a un risque, mais pour l'instant, je ne pense pas que ça aboutisse à une guerre. Mais c'est vrai qu'avec notre Covid-19, on est très occupé que par ça, et on ne voit pas ce qui se passe ailleurs, je ne sais pas quoi.
Voilà, et votre cache micro s'en écroule. Tanguy-Marie Pouliquen, le mot de la fin, si vous voulez réagir, il nous reste 2 minutes.
Alors, si on veut comprendre la posture de la Chine actuellement, la Chine, dans son autorité politique, elle est acceptée par le peuple selon un contrat social qui est le suivant. C'est sécurité, prospérité. Et à ce moment-là, on enlève les libertés publiques. La prospérité, ils feront moins de 0% cette année. La sécurité, la prospérité et la sécurité sont mis largement à mal. Il reste quoi, la Chine ? Il reste le nationalisme. Ce nationalisme, c'est un nationalisme scientifique, c'est un nationalisme sportif et événementiel. C'est aussi un nationalisme militaire. Et donc, la Chine, pendant tous les moments où elle sera en difficulté politique interne, elle va agiter le petit drapeau nationaliste, et elle va agiter Hong Kong, elle va agiter Taïwan, et elle va essayer de resserrer les troupes. Voilà. Et donc, les événements actuels, que ce soit Hong Kong ou à Taïwan, participent de cette volonté de resserrer l'appartenance des concitoyens à leur gouvernement sous sceau du drapeau de Pékin. Alors on peut comprendre la peur de Pékin. Le Congrès américain vient de voter le Taipei Revision Act qui invite Taïwan à participer aux grandes institutions internationales et qui confirme les accords de défense de Taïwan à l'égard de tout pays, bien sûr, principalement de Pékin. Donc ça va être tendu. L'année dernière, j'étais à Pinhan. Pinhan, c'est exactement en face de Taïwan. C'est une presqu'île. C'est vraiment le symbole de ce que veut faire Xi Jinping. Il veut transformer cette presqu'île en un centre de tourisme international. Donc, qu'est-ce que veut faire Pékin ? C'est attirer les Taïwanais sur les côtes du Fujian, en face de Fuzhou, que ce soit politiquement ou le touriste, pour créer de l'appartenance, pour créer du précédent, pour créer des envies. Beaucoup de Taïwanais étudiants vont étudier selon des accords préférentiels dans les universités de la côte. Et donc, voilà. C'est aujourd'hui cet accord tacite, cette mutualisation des peuples qui est mise à bas à cause de ce second mandat de cette présidente. Et les positions risquent peut-être à l'avenir de se durcir.
Eh ben merci infiniment de tous ces éclairages. Merci beaucoup et rendez-vous est donné, peut-être pas pour vous en cette fin d'année, mais certainement l'année prochaine pour cette émission qui continuera. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.